Accent d'Europe, Catherine Roland.
Dans votre partage, au revoir, car nous décrétons la victoire. Marchez à la gloire, mes chers enfants, revenez triomphants.
Bonjour à tous, spécial centenaire de l'armistice dans Accent d'Europe aujourd'hui, au lendemain du 11 novembre. Serge Berstein est avec nous. Bonjour Serge Berstein.
Bonjour madame.
Alors vous êtes historien, spécialiste de cette période, vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages et manuels, et surtout vous publiez avec 5 autres confrères étrangers, Ils ont fait la paix, le traité de Versailles vu d'ici et d'ailleurs, un ouvrage assez unique. Et on peut d'abord dire que ce traité qui mettra des mois à être négocié après l'armistice est celui des vainqueurs malgré les idées idéalistes du président américain Wilson.
C'est le principe, les vainqueurs l'emportent. Alors le président Wilson a troublé le jeu incontestablement. Les États-Unis n'avaient pas d'intérêt direct dans la signature de cette paix. Et par conséquent, le président Wilson a l'idée qu'il ne faut pas se contenter de faire une paix qui arrêterait les combats. Il faut une paix qui bannirait à jamais la guerre des relations internationales. Cette paix doit être fondée, estime Wilson, sur le droit et sur la justice. C'est à la fois une idée très démocratique, très neuve, très révolutionnaire, et qui heurte de plein fouet les conceptions des vainqueurs de la guerre, qui sont des conceptions classiques de conquête de territoire, de paiement d'indemnités par les vaincus aux vainqueurs.
Alors, l'idéalisme de Wilson se heurte notamment à la réelle politique de Clémenceau, le tigre, le père la victoire, qui n'oublie pas, lui, les 1 400 000 morts et les destructions terribles. Et puis, il y a une opinion publique qui fait pression sur lui.
Absolument. D'abord, Georges Clémenceau, le père la victoire, il symbolise pour les Français cette victoire dont il faut dire qu'il l'a obtenue d'arrache-pied. Grâce tout de même à l'arrivée d'un million d'Américains et des livraisons en matériel que les États-Unis font aux Alliés. Mais Georges Clémenceau est un réaliste, c'est-à-dire qu'il considère que les idées de Wilson sont généreuses, elles le frappent, il aimerait bien les partager, sauf qu'il n'y croit pas du tout. Pour lui, l'idée d'une paix fondée sur le droit et la justice qui bannirait à jamais la guerre, c'est une utopie d'un président de la République américaine qui n'est pas très au courant des données politiques du moment. Et puis il y a derrière Georges Clémenceau une opinion publique. Pour elle, la France a gagné la guerre. C'est le maréchal Foch, un général français, qui a commandé les armées alliées. Les Allemands ont dû s'incliner. Il faut imposer à ces barbares, les Anglais disent aux Huns, des clauses extrêmement sévères pour les empêcher de recommencer une agression qui a été insupportable pour la France.
Serge Berstein, difficile alors pour le président américain d'imposer ses vues pour une paix équilibrée. Le traité de Versailles, du coup, redessine brutalement les frontières européennes. Avec l'éclatement des empires et d'abord celui d'Autriche-Hongrie.
Au moment où se réunit le traité à Versailles, l'Autriche-Hongrie a éclaté. Il n'y a plus rien en quelque sorte à discuter, mais simplement de savoir comment on ramasse les morceaux de ce qui a été le grand empire des Habsbourg. Alors, de ce point de vue, il est clair que à partir du moment où les peuples slaves ont acquis leur indépendance avec d'un côté au nord la Tchéquie, la Bohême et la Slovaquie constituent une Tchécoslovaquie, à partir du moment où autour de la Serbie s'agglomère plus ou moins facilement un état des Slaves du Sud qu'on appellera plus tard la Yougoslavie, l'Autriche et la Hongrie, qui par ailleurs se séparent, ne sont plus que deux petits États avec simplement deux capitales hypertrophiées parce que c'était les capitales d'un empire immense. Et par conséquent, un éclatement complet au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom du principe des nationalités.
On rebat les cartes pour les populations. Il y a d'immenses mouvements de population d'une frontière à l'autre, notamment au Tyrol. Mais c'est dans toute l'Europe orientale, en quelque sorte, que ça se situe.
Toute l'Europe orientale, absolument. L'Europe balkanique, d'une part, l'Europe orientale de l'autre, et ce sera ensuite, mais on n'est plus en Europe, le cas en Turquie. C'est-à-dire qu'il y a brassage des populations. Mais il n'en reste pas moins que aucun des nouveaux États qui ont été créés en Europe n'ont des populations d'une ethnie homogène. Et ces populations allogènes ont souvent le sentiment d'être en quelque sorte brimées par l'ethnie majoritaire. Donc, on se heurte à un problème qui est insoluble dans toute l'Europe centrale et orientale. Le brassage des populations par l'histoire a été tel que la construction de frontières précises entre elles est totalement impossible.
Alors, ces frontières, si compliquées à mettre en place, on le voit bien, dans le Haut-Adige ou Tyrol du Sud, qui passe à l'Italie, 100 ans plus tard, c'est toujours une enclave germanophone. Aujourd'hui, la région est prospère, mais Vienne, où la droite dirige avec l'extrême droite, veut maintenant y proposer des passeports autrichiens. Céline Béal s'est donc rendue sur place au Tyrol du Sud.
Au Haut-Adige, on est en Italie, mais la population est à 70% germanophone. Et les musiciens qui jouent dans la rue portent des culottes de peau, comme en Autriche. La culture locale a subsisté malgré l'italianisation brutale entamée par le régime fasciste dans les années 20. Résultat, dans les cafés du chef-lieu, Bolzano, on peut accompagner son espresso d'une pâtisserie autrichienne. Ici, chacun se souvient que l'annexion de cette province, en remerciement de l'engagement italien aux côtés des Alliés en 1915, était une entorse à l'autodétermination des peuples. Certains s'en souviennent plus que d'autres et rêvent de faire sécession. Deux partis politiques sécessionnistes, Die Freiheitlichen et Südtiroler Freiheit, ont encore recueilli 12% des suffrages lors d'élections régionales fin octobre. Florian von Ach, le secrétaire général des Freiheitlichen, applaudit à l'intention de Vienne de proposer des passeports autrichiens au Tyrol du Sud. Et il rejette l'argument italien selon lequel cette intention, formulée peu avant la célébration du centenaire de la paix, relève d'un revanchisme anachronique.
Dans ce cas, on pourrait dire que c'est par revanchisme que nous, les Tyroliens du Sud, nous vivons selon les us et coutumes allemands. Mais c'est notre identité, c'est ce que nous sommes, et nous voulons le rester. Nous ne voulons pas être absorbés dans le peuple italien.
L'idée d'une seconde nationalité autrichienne en surcroît de l'italienne séduit bien au-delà des cercles sécessionnistes. Elle est aussi défendue par le grand parti centriste, le SVP, qui représente plus de 40% des électeurs. Au SVP, on s'inquiète cependant de voir l'Autriche, sous l'impulsion de l'extrême droite, avancer unilatéralement sur cette question. Ce parti considère que le calme dans la province est dû au modèle politique sud-tyrolien, avec une grande autonomie et des quotas linguistiques dans la fonction publique, mais aussi un esprit européen. Car au sein de l'Union européenne, le Tyrol du Sud n'est plus séparé physiquement du Tyrol du Nord, resté autrichien. Au palais de la province, le gouverneur appartient au SVP, tout comme tous ses prédécesseurs depuis les années 50.
Notre modèle est en réalité à l'opposé du nationalisme. Il vise à dépasser les frontières nationales avec cette région européenne Tyrol, Tyrol du Sud, Trentin. Nous essayons d'être une petite Europe dans l'Europe.
La majorité d'un non-compatcheur s'érode cependant. Une explication locale invoque le ressentiment des italophones qui se sentent lésés par les quotas. Autre problème, la protection de la culture autrichienne a entraîné une grande séparation des communautés. Résultat, beaucoup d'enfants grandissent sans parler la langue de l'autre.
Je ne jouais qu'avec des enfants italiens quand j'étais petite. Je ne parlais jamais allemand. Il y avait toujours les Italiens d'un côté, les Allemands de l'autre.
Du coup, à 50 ans, Anna Varsalona, secrétaire dans un collège de la région, a dû retourner sur les bancs de l'école pour améliorer son allemand. Une nécessité pour faire carrière. L'allemand, elle l'apprend au sein de l'école de langue Alphabeta Piccadilly. L'ambition de cette véritable institution locale est de promouvoir l'interculturalité. Pas toujours facile cependant, témoigne le fondateur, l'italophone Aldo Matz.
Il ne suffit pas de dire « je suis interculturel, je suis interethnique ». Ça ne se fait pas tout seul. En réalité, il faut être très attentif et prendre sciemment des décisions qui vont dans cette direction pour pouvoir faire émerger cette attitude.
Aldo Matz œuvre, lui, pour que sa région devienne véritablement interculturelle, car il veut éviter un affrontement des nationalismes ou une sécession. 100 ans après la fin de la guerre entre Autrichiens et Italiens, la question des nationalités est toujours présente au Tyrol du Sud.
Voilà le reportage de Céline Béal dans le Tyrol du Sud en Italie. Alors Serge Bernstein, un autre empire éclaté après cette première guerre mondiale, c'est l'Empire ottoman qui a carrément été dépecé par les Français et les Britanniques, notamment par le traité de Sèvres de 1920, vécu comme une humiliation par les Turcs.
Certainement, parce que apparaît très clairement, là on est en face d'un impérialisme pur et dur, les Français mettant en avant le rôle de protecteur des chrétiens de Syrie et du Liban, les Anglais considérant que toute la Mésopotamie, par exemple, comme la Palestine, constitue un glacis protecteur de la route des Indes. Donc il y a là, incontestablement, deux impérialismes qui tentent de s'assurer les bénéfices de la victoire. Alors avec des partages qui vont varier au cours du temps, en gros, on va donner aux Français la Syrie et une partie de la côte syrienne libanaise. On va leur donner quelques possessions ici ou là. Et puis, aux Anglais, alors, la Mésopotamie,
l'Irak,
là c'est la route des Indes, l'Irak, et puis la Palestine, pour l'essentiel. Et en même temps, on déclare que les mandats anglais et français dans cette région sont des mandats qui respectent la volonté des peuples.
C'est le prétexte des Français et des Britanniques qui attisent le nationalisme arabe. Mais Serge Bernstein, dans l'esprit d'une partie des Turcs, le souvenir de Sèvres persiste, à tel point qu'on en parle parfois comme du syndrome de Sèvres. L'actuel président Erdogan s'en sert à l'envi ces dernières années, avec plus ou moins de succès. Anand Lauer, qui est à Istanbul, a rencontré à ce sujet deux historiens turcs. Je vous propose d'écouter son reportage.
Chaque 10 novembre, à 9h05 précise, une sirène retentit et toute la Turquie se fige. Nous sommes à la veille du 11 novembre, mais cette scène étrange n'a pas grand-chose à voir avec la Première Guerre mondiale. Pas directement, du moins. Ce que les Turcs commémorent, une larme à l'œil chez certains, c'est le souvenir du fondateur de leur république, Mustafa Kemal, dit Atatürk, mort le 10 novembre 1938. L'homme qui a donné vie à la Turquie moderne, sur les cendres encore brûlantes de l'Empire ottoman. Le soldat qui, au lendemain du conflit mondial, a réparé l'humiliation infligée à l'Empire en menant avec succès la guerre d'indépendance nationale. Pour l'Empire ottoman, entré en guerre à reculons aux côtés de l'Allemagne, la défaite est un désastre. Obligé de se soumettre à l'occupation alliée, il a en fait cessé d'exister comme État indépendant, rappelle l'historien turc Mehmet Alkan.
Les territoires ottomans étaient l'un des principaux enjeux de la guerre. Par conséquent, à la fin du conflit, les États vainqueurs se sont empressés de se partager ces territoires.
L'armistice signé le 30 octobre 1918 en rade de Moudros, en Grèce, puis surtout le traité de Sèvres du 10 août 1920, consacre le démantèlement de l'Empire.
À quoi ressemble l'Empire ottoman? À quoi ressemble la Turquie dans l'esprit de ceux qui ont imposé ce traité? Eh bien, imaginez un tout petit pays, centré sur l'actuelle capitale, Ankara, sans aucun accès à la mer, dont 99% du territoire ne serait constitué que de terres agricoles, sans espoir d'industrialisation. C'était ça, la Turquie de Sèvres.
En effet, le gouvernement d'Istanbul, du sultan Mehmet VI, ne règne plus que sur un petit état anatolien. Inapplicable, jamais ratifié, la paix de Sèvres est une paix mort-née. Pour Mustafa Kemal et son gouvernement d'Ankara, qui entame à l'époque une lutte nationale en Anatolie, ce traité a le mérite de clarifier les choses. Vis-à-vis du diktat de la diplomatie européenne, qui ne fait aucune concession et confirme son appétit pour les terres ottomanes, vis-à-vis aussi du pouvoir d'Istanbul, qui achève de se discréditer auprès de la population, comme le souligne l'historien Ahmet Kouyash.
Ça a servi à mieux dénoncer le gouvernement d'Istanbul aux yeux du peuple. Et ça leur a aidé à les dénoncer comme des traîtres, comme des collaborateurs. Et d'ailleurs, le gouvernement d'Ankara a pris la décision de... Enfin, ils n'ont jamais eu la possibilité de le faire, mais ils ont dépouillé tout le gouvernement d'Istanbul de leur droit de nationalité.
Après la victoire des kémalistes dans leur lutte contre l'occupant, l'humiliation de Sèvres est effacée sur le papier par le traité de Lausanne de 1923, qui permet à la jeune Turquie de s'affirmer comme une nation indépendante. Il n'empêche, le souvenir de la défaite et le diktat de Sèvres restent de puissants mobilisateurs, notamment chez les franges les plus nationalistes de la société. Certains ont même été jusqu'à parler d'un syndrome de Sèvres, pour désigner la conviction selon laquelle l'étranger, l'Occident en particulier, comploterait en permanence pour nuire à la Turquie. L'actuel président Recep Tayyip Erdogan exploite ce sentiment ces dernières années. Mais il est loin d'être le premier, rappelle l'historien Mehmet Alkan.
À partir des années 1990, en particulier, cet épisode historique est devenu un instrument dans les disputes qui opposaient les tenants de l'islam politique aux kémalistes. Depuis, les gouvernements n'ont cessé d'agiter cet épouvantail de Sèvres. Toutefois, il ne me semble pas qu'une personne sensée puisse croire sérieusement à la menace d'une nouvelle occupation.
Mehmet Alkan, comme son collègue Ahmet Kouyash, ne pense pas que la majorité des Turcs soient victimes d'un syndrome de Sèvres. Selon ces historiens, à l'exception des ultranationalistes, de droite comme de gauche, la plupart des citoyens de l'actuelle Turquie font preuve de pragmatisme. Un peu comme Mustafa Kemal, qui choisira de fonder une république laïque inspirée des modèles occidentaux. Pour son nouvel État en 1923, il adoptera ainsi le code civil suisse, le code pénal italien, le code administratif français et le code commercial allemand.
Mustafa Kemal, d'autant plus magnanime que le traité de Sèvres a été rayé d'un trait de plume par celui de Lausanne. Du coup, il n'est plus question de l'émergence de deux États arméniens et kurdes qui auraient encore rogné le territoire turc. Alors, Serge Berstein, qu'est-ce qui reste de l'idée wilsonienne d'une société des nations censée éviter tous les futurs conflits sur le territoire européen, d'autant qu'elle était en germe depuis quelques années déjà?
Dès la fin du XIXe siècle, en Europe, un certain nombre de gouvernements ou d'hommes politiques idéalistes mettent en avant l'idée qu'il faut supprimer les guerres, en tout cas sur le continent européen, et les remplacer par des procédures d'arbitrage qui permettraient de régler les conflits au nom des grands principes du droit international et de la justice. Et en France, on a quelqu'un qui est oublié aujourd'hui injustement par l'histoire, qui va mettre en avant cette idée, qui est Léon Bourgeois, ancien président du Conseil, et qui va se faire l'apôtre de l'idée d'arbitrage, mais c'est évidemment Wilson qui la met en avant par le 14e des 14 points où il est question de créer une société internationale qui réglerait ce type de problème. Et en fait, le grand problème qui s'est posé, c'est le heurt entre les idées de Léon Bourgeois, qui est arrivé avec une proposition de constitution bien organisée, et un état-major international et des troupes recrutées parmi les membres de la Société des Nations. C'est une idée qui était inacceptable. Wilson dit comment allons-nous établir une paix perpétuelle par des guerres qui risquent d'être perpétuelles.
Oui, c'est ce qui va expliquer d'ailleurs l'impuissance de cette société.
Alors,
des nations.
Alors, ça va expliquer l'impuissance de la société des nations et le fait que, avec l'ONU, qui est un peu la fille de la SDN, on a essayé d'être un peu plus efficace, sans y parvenir de façon éclatante, bien entendu. Il n'est pas question d'imposer des arbitrages aux grandes puissances qui, d'ailleurs, ne les accepteraient pas.
Serge Berstein, je rappelle le titre de votre ouvrage, écrit avec cinq de vos confrères étrangers. Ils ont fait la paix. Le traité de Versailles, vu de France et d'ailleurs, et c'est publié aux Arènes. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci de votre fidélité sur Accent, à la réalisation et à la mise en onde de Françoise Grelot, bien sûr. Vous pouvez écouter cette émission aussi sur notre page Facebook ou sur le site de RFI.